Vous aurez reconnu les voix de Florent, Céline, Nicolas et Lino. Restez sur Transistor, c'est l'heure d'écouter Les Ions des Oreilles.
L'orage d'été grondait tout autour des falaises sableuses. Loin en contrebas, la mer suçotait les galets comme un vieillard pourvu d'une seule dent à qui on a donné un bonbon acidulé. Et le doyen des mages, assis parmi les armeries maritimes et les rupies bruyantes au bord de la falaise, berçait l'enfant dans ses bras, le regard fixé sur l'océan. Un silence soudain dans son dos le fit se retourner, et il leva des yeux rougis de larmes vers une haute silhouette encapuchonnée, vêtue d'une robe noire.
Ypsilore le Rouge,
s'enquit la silhouette. La voix était aussi caverneuse qu'une grotte, aussi dense qu'une étoile à neutrons. Ypsilore se fendit du sourire affreux de qui succombe brusquement à la folie, et offrit l'enfant à l'examen de la mort. « Mon fils, dit-il, je vais l'appeler Thune. »
« Un nom qui envoie un autre,
fit poliment la mort. » Le mage se mit debout, étendit délicatement le bébé sur l'herbe clairsemée et ramassa un long bourdon qui l'attendait là. L'objet était fait de métal noir, couvert d'un réseau de sculptures d'or et d'argent, qui témoignait d'un manque de goût aussi onéreux que sinistre. Le métal, c'était de l'octefer, intrinsèquement magique. « C'est moi qui l'ai fait, vous savez. Ils disaient tous qu'on ne pouvait pas faire un bourdon en métal, qu'il fallait du bois, mais ils avaient tort. J'ai mis beaucoup de moi-même dedans. Je ne lui donnerai. Ils m'ont chassé avec leurs livres, leurs rituels et leurs traditions. » Ils se prétendaient mages et ils avaient moins de magie dans tout leur corps plein de graisse que moi dans mon petit doigt. Banni, moi, pour avoir montré que j'étais humain ? Qu'est-ce qu'ils seraient les humains, sans amour ?
Une espèce rare,
dit la mort. La foudre hurla depuis le cœur du nuage, s'abattit sur la pointe du chapeau d'Ypsilore, lui crépita d'un bout à l'autre du bras, fusa le long du bourdon et frappa l'enfant.
Maintenant, tu vas me suivre.
Non.
Si, tu es mort, tu vois.
La mort regarda à la ronde en quête de l'ombre tremblotante d'Ypsilore et ne parvint pas à la trouver.
Où tu es ?
Dans le bourdon.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre belle émission de lecture, au cœur de l'après-midi. On espère que vous êtes confortablement installés pour entendre nos voix. Oui, aujourd'hui nous avons la chance de parler en direct sur les ondes de Transistor. Vous, en revanche, vous avez le malheur d'entendre toutes nos bêtises non coupées au montage, ou non moutées au coupage pour être exact. Mais pauvres, les larmes vous montent déjà aux oreilles. Et oui, j'ai le droit de le dire, car ici, les yeux ont des oreilles. Vous le savez, car vous avez déjà écouté l'épisode 15, l'équipe a bien changé depuis l'année dernière. Il a fallu démarcher, recruter, on a trouvé des primo-arrivants et même quelqu'un de mono. Il y a aussi Mathilde, transhistorienne et spectatrice de renom, qui proposera cette année, j'en suis convaincue, les thèmes les plus scabreux que vous puissiez imaginer. C'est la nouvelle secrétaire de l'association, héritage de Caroline. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Du côté du sang frais, vos oreilles ont la chance d'entendre Céline, une angliciste dont vous lisez les écrits un mercredi sur deux lorsque la newsletter avec un N majuscule atterrit sur votre boîte mail.
Bonjour.
Mais vous entendrez aussi Agère en M1 de lettres modernes. Vous l'entendrez dans beaucoup d'autres émissions cette année, à commencer par Il y a une vie après normale à 15h.
Bonjour.
AL2, une Polcom et une lettre moderne, elles ont hérité de Camille. Quant à moi, pauvre minoritaire, j'adresse toutes mes félicitations à Willem, qui a su tenir bon durant toute une année face à la multitude, qui est un mot dont la féminité est trop souvent oubliée. Big up à toi, Will. Clément a hérité de la régie de Robin, et malgré sa passion pour les boutiques de vêtements, il ne porte pas de t-shirt à analyser, c'est bien dommage. Bon, vous l'avez compris, c'est une saison sous le signe de l'héritage qui commence pour les yeux en des oreilles. Alors, pour ce numéro spécial anniversaire, sans la moindre originalité, on a choisi comme thème « héritage », au pluriel, parce que c'est classe. Cette musique divine, elle annonce notre invité. Suspense, de qui peut-il bien s'agir ? Eh bien, comment faire une émission sur l'héritage sans celle dont nous héritons de l'émission ? Vous avez bien sûr reconnu sa voix en début d'émission, Caroline est avec nous cet après-midi. Encore, diront les mauvaises langues, encore, diront ses innombrables admirateurs. Non, je ne suis pas fou, hello Caroline.
Hello dear.
En début d'émission, c'était d'ailleurs un extrait de « Sourcellerie » de Terry Pratchett. Oui, j'ai réussi à insérer du Pratchett dans l'émission. Mon travail ici-bas est terminé. Pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur et l'univers du disque monde et qui veulent que je leur parle de ma passion et de mes problèmes psychologiques, envoyez-moi un mail parce que là, je n'ai qu'une vingtaine de minutes.
Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec.
Et si le meilleur moyen d'hériter de quelque chose, c'était d'ignorer qu'elle nous est due ? C'est ce que semble suggérer Gabriel Garcia Marquez dans Cien Años de Soledad, fresque familiale rocambolesque et inspirée, qui voit l'amnésie et les disparitions en tout genre frapper les générations successives de la famille Buendía. Dans l'extrait que va vous lire Nicolas, José Arcadio II est découvert par son aïeul dans une pièce poussiéreuse de la demeure familiale, oublié de tous alors qu'il tentait, spoiler, de déchiffrer les parchemins qui donneront la clé de la destinée de la famille à la fin du roman.
Hizo desembarazar de escombros y telarañas la habitación donde a José Arcadio Buendía se lo secó la moliera buscando la piedra filosofal. Puso en orden el taller de platería que había sido revuelto por los soldados y por último pidió las llaves del cuarto de Melquíades para ver en qué estado se encontraba. Fiel a la voluntad de José Arcadio II, que había prohibido toda intromisión mientras no hubiera un indicio real de que había muerto, Santa Sofía de la Piedad recurrió a toda clase de subterfugios para desorientar a Úrsula. Pero era tan inflexible su determinación de no abandonar a los insectos ni el más recóndito e inservible rincón de la casa, que desbarató cuanto obstáculo le atravesaron y al cabo de 3 días de insistencia consiguió que le abrieran el cuarto. Tuvo que agarrarse del quicio para que no la derribara la pestilencia, pero no le hicieron falta más de 2 segundos para recordar que ahí estaban guardadas las 72 vecinías de las colegialas y que en una de las primeras noches de lluvia una patrulla de soldados había registrado la casa buscando a José Arcadio II y no habían podido encontrarlo. «¡Bendito sea Dios!», exclamó, como si lo hubiera visto todo. Tanto tratar de inculcarte las buenas costumbres para que terminarás viviendo como un puerco. José Arcadio II seguía releyendo los pergaminos. Lo único visible en la intrincada maraña de pelos eran los dientes rayados de lama verde y los ojos inmóviles. Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta. Trató de sonreír y sin saberlo repitió una antigua frase de Úrsula. Que quería murmuró, el tiempo pasa. Así es, dijo Úrsula, pero no tanto. Al decirlo, tuvo conciencia de estar dando la misma réplica que recibió del coronel Aureliano Buendía en su celda de sentenciado. Y una vez más, se estremeció con la comprobación de que el tiempo no pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo.
Monsieur Jean-Paul Mignon, fils de Gaston Mignon, président des Champignons Mignons.
C'est moi.
Et son frère Maxime Mignon.
Présent.
Lecture de l'acte de succession de monsieur Gaston Mignon.
Ouais, d'accord.
Voici ce qu'il m'a dicté alors qu'il agonisait d'un douloureux cancer.
Allez-y.
Aïe.
Oui. Oui.
Argleg.
Allez tout de suite à la succession, si vous
voulez. D'accord. La totalité des actions de la société Champignons Mignons ira à mes deux fils.
Pardon.
Dans le cas où l'un meurt, l'autre sera seul héritier.
C'est vrai, ça ?
Pardon.
Hein ? Non, rien.
C'est tout, messieurs.
Bon, eh ben merci.
Oh,
au revoir. C'est ça.
Tu te rends compte ?
Hein, quoi ?
Nous sommes riches, tralala.
Tralala. Je lui tire une balle dans la tête ou je le pousse en bas de l'escalier.
Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi t'as tiré une balle en bas de l'escalier ?
Pour rien, j'ai confondu 2 activités.
Vous l'avez compris en écoutant cet extrait débile des 2 minutes du peuple, on va passer à quelque chose de beaucoup moins moral et intellectuel et parler de l'héritage financier. C'est la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle d'héritage. Si vous lisez du Maupassant, du Zola, tous ces auteurs sympathiques, vous allez forcément tomber sur une de ces histoires de testaments et de magots plus ou moins bien cachés. Mais ici, à Transistor, on préfère faire dans l'originalité. Et on part en Russie avec Guerre et paix de Tolstoï en compagnie d'Agère.
Voyez-vous, chère princesse et chère cousine Catherine Semenovna, reprit le prince Basile, il faut penser à tout dans de pareils moments. Il faut penser à l'avenir, au vôtre. Je vous aime toutes trois comme mes propres filles, tu le sais. Comme la princesse restait impassible et impénétrable, il continua sans la regarder, en repoussant avec humeur un guéridon. Tu sais bien, Catiche, que vous trois et ma femme, vous êtes les seules héritières directes. Je comprends tout ce que le sujet a de pénible pour toi et pour moi aussi, je te le jure. Mais ma chère amie, j'ai dépassé la 50aine, il faut tout prévoir. Sais-tu que j'ai envoyé chercher Pierre ? Le prince Basile releva les yeux sur elle. Rien n'indiquait sur sa figure si elle l'avait écouté ou si elle le regardait sans songer à rien. Mais enfin, voici l'affaire, tu la connais. Le comte a fait l'hiver dernier un testament par lequel il laisse toute sa fortune à Pierre, en mettant de côté ses héritiers légitimes. « Oh, il en a tant fait de testament !» repartit la nièce avec une tranquillité parfaite. « En tout cas, il ne saurait rien léguer à Pierre, car Pierre est un fils naturel !»« Et que ferions-nous ? » s'écria vivement le prince Basile en serrant contre lui le guéridon à le briser. « Que ferions-nous si le comte demandait à l'empereur dans une lettre de légitimer ce fils ? Eu égard au service du comte, on le lui accorderait peut-être !» La princesse sourit, et ce sourire disait qu'elle en savait là-dessus plus long que son interlocuteur. « Je te dirai plus. La lettre est écrite, mais elle n'a pas été envoyée, et pourtant l'empereur en a connaissance. Il s'agirait de découvrir si elle a été détruite. Si au contraire elle existe, alors, quand tout sera fini ?» Il soupira pour faire entendre ce que voulait dire le mot « tout ». On cherchera dans les papiers du comte, le testament sera remis à l'empereur avec la lettre, sa prière sera accueillie et Pierre héritera légitimement de tout. « Et notre part ?» demanda la princesse avec une ironie marquée, bien convaincue qu'il n'y avait rien à craindre. « Mais ma pauvre Catiche, c'est clair comme le jour. Il sera le seul héritier et vous ne recevrez pas une obole. Tu dois le savoir, ma chère. Le testament et la lettre ont-ils été détruits ? S'il les a oubliés, où se trouvent-ils ? Dans ce cas, il faudrait s'en emparer car il ne manquerait plus que cela !» lui dit-elle en l'interrompant du même ton et avec la même expression dans le regard. « Je ne suis qu'une femme et selon vous, nous sommes toutes des sottes !» Mais je suis sûre qu'un bâtard ne peut hériter de rien. Un bâtard ! Ajouta-t-elle en français, comme si ce mot dans cette langue devait répondre victorieusement à tous les arguments de son adversaire. Tu ne veux pas me comprendre, Catiche, car tu es intelligente. Si le comte obtient la légitimation, Pierre deviendra comte Bezoukhov, et toute la fortune ira à lui de droit. Si le testament et la lettre existent, il ne te reviendra à toi que la consolation d'avoir été bonne, dévouée, etc. Je sais que le testament existe. « Mais je sais aussi qu'il n'est pas légal, et vous me prenez, je crois, pour une idiote, mon cousin, » répondit la princesse, convaincue qu'elle avait été mordante et spirituelle. « Ma chère princesse Catherine, » reprit le vieux prince avec une impatience marquée, « je ne suis pas venue pour te blesser, mais pour causer avec toi de tes propres intérêts. Je te répète pour la dixième fois que, si le testament et la lettre se trouvent parmi les papiers du comte, tes sœurs et toi, vous cessez d'être les héritières. Si tu manques de confiance en moi, adresse-toi à des gens compétents. »
Ah, tout ça est très bien, mais à partir de quel moment vous allez partir dans des délires de normaliens du site Descartes ?
Me demandait tout à l'heure le petit père des peuples, notre cher vice-président. Eh bien, c'est maintenant, grâce à Céline et à l'appui de Caroline. Je sais qu'on n'a jamais assez de VO dans les yeux ou des oreilles, mais je pense qu'il y a quand même une surpopulation d'anglicistes autour de cette table.